40 ans ont passé depuis la fin du conflit et pourtant, nous, Français, ne cessons pas d'être concernés par ce qui se passe en Algérie. Nous en avons encore eu la preuve ces dernières semaines avec le procès des auteurs des attentats qui ont ensanglanté Paris en 1995. Car la France, qu'elle le veuille ou non, est impliquée dans la deuxième guerre d'Algérie, comme certains historiens l'ont appelée, ne serait-ce que parce que nous abritons une importante communauté d'origine algérienne. En réalité, et malgré l'indépendance, les Algériens n'ont jamais coupé le lien avec l'ancien colonisateur, même si l'on peut estimer que le régime algérien s'est construit contre la France. La France repoussoire, la France soupçonnée en permanence de se mêler des affaires algériennes, la France où l'on exporte sa violence. Mais la France qui demeure le premier partenaire économique de l'Algérie et vers qui l'on regarde en permanence. Lien culturel, affectif, curieuse relation d'amour, haine. Avec M. X, nous avons souvent parlé de l'Algérie à propos de l'exécution du président Boudiaf, par exemple, ou encore plus récemment, en évoquant l'assassinat des 7 moines de Tibirine. Mais s'il a choisi cette semaine de revenir sur ce sujet, c'est à cause de l'actualité de ce procès des poseurs de bombes du GIA. Une affaire qui dissimule bien des mystères et qui, pour mon interlocuteur, trouve son origine dans la nature même du régime algérien et de la société algérienne.
Dès l'indépendance, en 1962, les Algériens ont été déchirés. Enfin, pour simplifier, il y avait ceux qui voulaient privilégier l'héritage de la France, c'est-à-dire la modernité, la laïcité, le bilinguisme, par exemple. Il faut savoir qu'en effet, en Algérie, la population était largement francophone et qu'elle parlait un arabe un peu bâtard, très éloigné de l'arabe classique.
Oui, dialectal, quoi. Enfin, j'imagine qu'après une guerre d'indépendance qui avait fait autant de victimes, il ne devait pas être facile d'afficher des sentiments francophiles.
Naturellement. Alors, de l'autre côté, il existait une tendance à l'arabisation. Mmh. La nouvelle Algérie devait trouver son salut dans un ancrage au sein du monde arabe.
Et puis l'islam.
Bien sûr. Mmh. Et cette déchirure latente a été encore exacerbée par la montée progressive de l'islamisme. Mmh. Les jeunes Algériens, dont beaucoup sont au chômage, se disent volontiers islamistes et anti-occidentaux, bien sûr. Et pour la plupart, ils rêvent de venir travailler, s'installer en France, et le soir, eh bien, ils regardent la télévision française grâce aux paraboles.
Ouais, autant de contradictions. Mais où voulez-vous en venir, là ?
Je voulais d'abord vous dire cela parce que ça explique en partie les relations difficiles entre notre pays et l'Algérie. Quoi qu'ils en disent, les Algériens restent obsédés par la France. Mmh. Oui. Et ils sont tentés en permanence de nous impliquer dans leurs difficultés. Soit en nous reprochant d'intervenir dans leurs affaires, soit en nous accusant de ne pas le faire.
C'est compliqué, hein.
D'autant plus compliqué que la politique française a souvent été fluctuante. Mais il est clair que la France ne peut pas se désintéresser de l'Algérie à cause des intérêts économiques qui nous lient.
Pétrole.
Mmh. Surtout le gaz, à cause aussi de tous les enfants d'Algérie qui vivent chez nous. Enfin, j'en termine avec ce trop long préambule. Toutefois, je crois qu'il était nécessaire. Alors, voyons maintenant la nature du régime algérien. Comme vous le savez, l'Algérie n'a jamais connu de réelle démocratie. Et il faudra attendre 1988 pour que cesse le monopole du FLN sur la vie politique. Mais on parlera peut-être de cette année 88, car elle marque un tournant capital.
En tout cas, jusqu'à cette date, ce sont les militaires qui règnent.
Hein. Ça n'a pas cessé. Enfin, j'y reviendrai. Bref, après le règne de Ben Bella, c'est Boumediene qui prend le pouvoir.
Un putsch. Hein.
Oui, le pays se rapproche de plus en plus du bloc de l'Est. On assiste alors à une véritable soviétisation de la société, mais aussi de l'économie.
Le collectivisme.
Et l'Algérie reproduit fidèlement toutes les erreurs commises en URSS et dans ses autres états satellites. La révolution agraire, par exemple, est une véritable catastrophe. L'industrialisation aussi. Mais il y a le pétrole qui rapporte des milliards de dollars et ça permet de satisfaire les besoins les plus criants de la population. Certains experts estiment même que l'Algérie est alors un pays du tiers-monde qui s'en sort plutôt bien.
Oui, mais sur le plan politique...
C'est une dictature, ouais. Même s'il subsiste une très relative liberté de la presse. C'est la puissante sécurité militaire qui met le pays en coupe réglée. En même temps, le pouvoir arabise à tout va et favorise la montée de l'islam au nom des valeurs nationalistes.
Et puis, surtout la corruption.
C'est presque inévitable dans un pays aussi centralisé. Les différents clans de l'armée se sont taillés de véritables fiefs et l'argent coule à flot. Et l'argent du gaz, et du pétrole, naturellement. Mais comme le gouvernement a le monopole des importations, les généraux touchent de confortables commissions sur tous les contrats. Il y a le général du médicament, celui de la bière, celui du blé ou encore du sucre.
Et ça existe encore ?
Bien entendu, rien n'a changé. J'ajoute que cette corruption s'est encore accrue après la mort de Boumediene.
Et son remplacement par Chablis.
Oui, comme vous l'imaginez, cette situation a creusé un écart grandissant entre les puissants du régime et une population qui va aller en s'appauvrissant.
Et pourquoi alors ?
Il y a plusieurs raisons. D'abord, l'explosion démographique et l'échec de la politique agricole qui a entraîné de plus en plus d'Algériens vers les villes.
Mmh, oui, ils pensaient trouver du travail.
Oui, j'imagine. Les malheureux se faisaient des illusions. Mmh. Puis ensuite, il y a eu la baisse du prix du pétrole au milieu des années 80. Et puis, notez-le bien, même si on en a peu parlé en France, le pouvoir algérien va devoir faire face au cours de ces années-là à de nombreuses émeutes. En Kabylie, bien sûr, où l'on réclame la reconnaissance de la spécificité berbère. Mais aussi dans plusieurs villes, à l'université ou dans la Casbah d'Alger, où les habitants réclament des logements décents.
Mmh. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, un vrai problème du logement.
Oui, c'est exact, oui.
Est-ce que les islamistes profitent de ce mécontentement populaire?
Bah forcément. Le pouvoir des généraux, en favorisant l'islamisation de la société algérienne, a joué avec le feu. Et en 1988, date clé de l'histoire algérienne, le FIS, c'est-à-dire le Front Islamique du Salut, qui est encore clandestin, va être instrumentalisé par un des clans de l'armée.
Instrumentalisé, alors. D'accord, mais ça veut dire que le pouvoir n'est pas monolithique.
Non, non, et là encore, on retrouve la France.
La France qui intervient ?
Non, non, je veux parler du passé colonial. En gros, car rien n'est simple, il y a des officiers qui sont issus de la LN, l'armée de libération nationale, d'authentiques combattants. Puis il y a les autres. Des officiers qui ont fait la plus grande partie de leur carrière dans l'armée française.
C'est-à-dire qu'ils n'ont rejoint que tardivement les partisans de l'indépendance ?
C'est ça, oui. Enfin, souvent, en 1961.
Ouais, un an, tout juste avant l'indépendance.
On appelle ironiquement ces ralliés de la dernière heure les enfants de troupes.
Les enfants de troupes, parce qu'ils ont véritablement été enfants de troupes dans l'armée française ?
Oui, pour la plupart. Ces hommes, malgré leur passé peu glorieux, ont quand même réussi à faire carrière dans l'armée et dans les premiers cercles du gouvernement. Ben, ils en veulent encore plus.
Mais le pouvoir, quoi.
Exactement. La totalité du pouvoir. Alors, 1988...
Ça fait plusieurs fois que vous parlez de 88.
Oui, oui. En septembre, le président Chadli revient de très longues vacances.
Vous voulez dire de vraies vacances?
Oui, oui. Chadli, qu'on appelle le roi fainéant, laisse son entourage gouverner. Mais il faut dire que ce général ne voulait pas être président. On lui a forcé la main.
C'est qui
La clique des généraux. Ils pensaient non sans raison que Chadli les laisserait agir à leur guise et continuer à s'en mettre plein les poches. En tout cas, cette année-là, malgré la crise économique, malgré les pénuries que subit la population, le président s'est octroyé 3 mois de vacances.
Ouais, c'est pas rien, hein.
En effet, à peine rentré à Alger, le président algérien prononce un discours stupéfiant devant une assemblée de responsables politiques et de hauts fonctionnaires. Discours relayé par la télévision. Dénonçant les malheurs de ses compatriotes, Chadli accuse l'incurie du gouvernement.
Mais c'est quand même son gouvernement.
Oui, vous avez raison. Mais il accuse aussi le parti unique dont il est par ailleurs le secrétaire général.
Ça me paraît extraordinairement étrange tout ça.
Ah, et la fin ne l'est pas moins. Le président reproche au peuple sa passivité et l'encourage à agir.
Alors, c'est quoi? C'est une sorte d'appel à la rébellion?
Ça y ressemble.
Ah bon, d'accord, mais expliquez-moi alors.
Bon, il est évident que le roi fainéant Chadli n'a pas pris cette initiative tout seul. Il a été conseillé, peut-être même lui a-t-on écrit son discours. Enfin bref, vous l'avez compris, dans son entourage, quelqu'un ou quelques-uns ont décidé de mettre le feu aux poudres.
Ouais, vous êtes toujours prompt à voir partout des éminences grises, mais est-ce qu'on ne peut pas penser tout simplement que Chadli a pris la mesure du mécontentement populaire et qu'il a pris les devants?
Avant qu'on ne s'en prenne à lui, c'est ce que vous voulez dire?
Bah, oui.
Eh bien, pardonnez-moi, mais vous êtes naïf. Chadli n'est qu'une marionnette aux mains des militaires. Et la réalité, c'est qu'un clan a décidé de se débarrasser de l'autre, y compris en mettant l'Algérie à feu et à sang.
Ce qui va se passer?
Oui. Des grèves éclatent, le mécontentement s'accroît, les pénuries alimentaires deviennent de plus en plus fréquentes, alors même qu'il existe des stocks.
Vous voulez dire que c'est... pénuries sont systématiquement organisées.
Je pense, oui. Et ce qui doit arriver arrive. Début octobre, le 5, je crois, de jeunes Algérois descendent dans la rue. Et curieusement, dans ce pays où les forces de l'ordre sont mobilisées en masse à l'annonce de la moindre manifestation, il n'y a aucun policier dans la rue.
Oui, mais est-ce que les autorités savaient, après tout, cette manifestation pouvait être spontanée?
Vous plaisantez. En Algérie, à l'époque comme aujourd'hui, pas grand-chose n'échappe aux services de sécurité. Par conséquent, le gouvernement sait depuis plusieurs jours que ce 5 octobre, la population excédée va manifester. Et pas seulement à Alger, mais dans plusieurs villes du pays. Et s'il n'y a pratiquement pas de policiers dans Alger, ce n'est quand même pas innocent.
Dans un instant, nous revenons avec Monsieur X sur cette curieuse manifestation du 5 octobre 1988. Une manifestation qui, disons-le tout de suite, va donner le signal des violences qui ensanglantent encore aujourd'hui l'Algérie. Auparavant, voyons une nouvelle fois la nature des relations entre la France et l'Algérie. Lucille Provost, c'est un pseudonyme, est une fonctionnaire française qui a travaillé à l'ambassade française à Alger. En 1996, elle a publié chez Flammarion « La deuxième guerre d'Algérie », un ouvrage d'analyse dont la grande lucidité lui a valu quelques ennuis avec le gouvernement de notre pays. J'en extrais ce passage, elle parle des autorités algériennes. Mais l'attitude même du pouvoir suffisait à prouver aux Algériens l'importance de la France. S'il en parlait tant, c'est bien qu'elle avait gardé toute son influence en Algérie, voire l'avait accrue. La société algérienne, si elle a toujours été sensible aux sirènes du nationalisme, n'a jamais cru en effet le régime capable de donner au pays les moyens nécessaires à une véritable autonomie vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, ni qu'il en ait eu l'intention. Affichée de manière si insistante, la distance à l'égard de la France était en fait indiquée à coup sûr son importance pour l'Algérie et les intérêts particuliers, politiques et financiers qui y étaient liés. L'ensemble de la société algérienne a donc continué de se sentir un peu française et de garder les liens avec notre pays sous les formes les plus diverses. Attaches familiales, contacts économiques, lieux de vacances ou d'études. La France reste, ou plutôt restait, jusqu'à ces deux dernières années où le nombre de visas délivrés aux Algériens était drastiquement réduit, l'horizon de l'ensemble des Algériens.
Alors, à votre avis, qu'attend-on de cette manifestation? Qu'elle dégénère?
C'est évident. Effectivement, la manifestation est très violente. C'est à une véritable émeute qu'on assiste. Des magasins sont pillés, des commissariats sont attaqués, des ministres molestés. Le soir, on décrète l'état de siège et la répression commence.
Quel a été le rôle des islamistes dans cette affaire?
Vous pensez bien qu'ils ne pouvaient pas rêver meilleure occasion pour renforcer leur influence sur la jeunesse en particulier. Tous ces chômeurs, ces étistes...
Quoi?
Étistes, ça vient d'un mot arabe. Ce sont ces jeunes gens qui passent leur vie au pied des murs parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire.
Ah oui, d'accord.
Je peux vous le dire, ces gens qui sont à l'origine de cette affaire espéraient bien que les islamistes allaient entrer dans la danse pour accentuer la déstabilisation du régime. Enfin, n'allons pas trop vite.
D'accord. Je suis habitué. Alors, la répression?
Elle est féroce. L'armée intervient. On arrête à tour de bras, on torture, et au final, on comptera presque 500 morts. Cette violence extrême a fait l'effet d'un véritable séisme en Algérie. Et en toute hâte, le président Chadli amorce une démocratisation du régime en autorisant la création de partis politiques.
Mais est-ce que ça suffit pour calmer la population?
Provisoirement.
Oui, mais concrètement, enfin, le clan qui est à l'origine de ce séisme, comme vous dites, a-t-il tiré parti de cette affaire?
Bien sûr. À la suite de cette répression extrêmement féroce, plusieurs généraux appartenant à la vieille garde sont limogés.
La vieille garde FLN.
Oui, ils sont remplacés par les enfants de troupe, comme on les appelle, c'est-à-dire le clan des anciens de l'armée française. Mais ce n'est pas tout. Le FLN est discrédité, l'ex-parti unique est court-circuité. C'était le résultat auquel voulaient aboutir les auteurs de cette manipulation qui désiraient se débarrasser des caciques qui en étaient à la tête.
Et Chadli, alors?
Il surnage. Enfin, c'est normal, puisque son directeur de cabinet, le général Belcrère, est l'un de ses officiers qui sont à l'origine de la manœuvre. Mais c'est loin d'être fini. Suivent ensuite les élections locales, les premières élections pluralistes depuis l'indépendance. Et c'est le fils qui rafle la mise en surfant, comme on dit aujourd'hui, sur le mécontentement populaire. Mais dans des conditions pas toujours très claires.
Mais c'est-à-dire?
On observe beaucoup d'irrégularités. Dans certaines communes, on a voté sous la surveillance de militants du fils armés de barres de fer. Mais curieusement, les autorités ne bronchent pas.
On a sciemment laissé faire, alors.
C'est très possible. Je vous l'ai dit, les islamistes ont été instrumentalisés. Et ils vont continuer à l'être. En 1991, l'Algérie traverse une période très chaotique. Il y a de nombreuses grèves, des émeutes. 1991, c'est aussi l'année de la guerre du Golfe.
Oui.
Les dirigeants du FIS, qui ont pourtant été largement financés par l'Arabie Saoudite, prennent fait et cause pour Saddam Hussein et orchestrent de violentes manifestations contre les Occidentaux.
Oui. C'est aussi l'année donc où le FIS va remporter les élections législatives.
Oui, et là encore, on va assister à de curieuses manœuvres. Enfin, disons pour simplifier que tout au long de cette année 91, il existe une volonté de continuer à déstabiliser le pays.
Toujours ce clan des généraux, là?
C'est certain. On essaie d'exacerber les tensions et de pousser les islamistes à avoir recours à la violence.
Alors, ça voudrait dire, enfin clairement, que le fils s'est infiltré.
Naturellement. Avant l'été, le fils déclenche une grève générale qui débouche sur une véritable insurrection civile. Le pouvoir fait arrêter les deux leaders du fils, Abbasi Madani et Ali Belhad.
Ce qui évidemment ne doit pas calmer la situation, bien au contraire.
Bien sûr, bien sûr. La conséquence, c'est que le fils décide de boycotter les élections législatives qui doivent avoir lieu à la fin de l'année. Et ça... Ça ne fait nullement l'affaire des comploteurs.
Pourquoi ?
Ben parce qu'ils veulent que le fils remporte les élections, c'est aussi simple que cela. Et ils vont tellement bien faire que le parti islamiste va effectivement revenir sur sa décision.
Mais comment alors ?
Ben, ils obligent Chadli à déclarer publiquement qu'il est prêt à gouverner avec les islamistes s'ils viennent à gagner les élections.
Mmh.
Alors aussitôt, le fils décide de participer au scrutin.
C'est normal.
Enfin, la suite, vous la connaissez. Au premier tour, les islamistes triomphent. Il n'y aura pas de deuxième tour. L'armée va s'imposer. L'armée qui est aux ordres de ces généraux qui manœuvrent dans l'ombre depuis si longtemps. Des généraux qui accèdent enfin seuls au pouvoir.
Donc, si je vous suis bien, pour arriver à leur fin, je parle des généraux, il fallait que les islamistes gagnent les élections.
Bien entendu, c'était le prétexte qu'ils attendaient. L'armée se donnait le beau rôle en évitant au pays de devenir un nouvel Iran. Et notez-le bien, en Occident, à part quelques exceptions, on approuve. Car même si on a guère de sympathie pour les généraux qui ont interrompu le processus électoral, on respire. Le danger islamiste faisait très peur.
Il me semble me souvenir que François Mitterrand a fait la fine bouche.
Oui,
non,
en fait, il a été très prudent. Il a condamné l'intervention des militaires, ce qui a suscité la fureur des généraux. Mais dans le même temps, le président français a déclaré comprendre leur motivation. Non, c'est Jospin qui s'est exprimé le plus clairement en désapprouvant l'interruption du processus démocratique. Mmh. En réalité, la France va objectivement soutenir les généraux, en refusant par exemple de réduire l'aide économique à l'Algérie.
C'est donc une sorte de coup d'État qui a été perpétré.
Oui, incontestablement. Et les choses vont aller très vite. Chadli a joué son rôle, on n'a donc plus besoin de lui et on le pousse à la démission.
On le pousse ?
Oui. On l'oblige à signer sa lettre de démission en le menaçant physiquement. Chadli ne peut que s'incliner.
Je comprends.
Les généraux ont donc gagné, mais il leur faut trouver un autre président patiche.
Ce que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ne pas le choisir parmi eux ?
Parce que ces hommes qui détiennent tous les leviers du pouvoir politique, militaire et économique préfèrent demeurer dans l'ombre. Il leur faut un paravent civil qu'ils pourront manipuler. Un homme qui leur permettra de continuer à percevoir de substantielles commissions sur les importations de biens, les affaires immobilières et bien entendu le pétrole.
Ouais. Donc, on le sait, c'est Boudiaf qu'ils vont choisir. Mais on en a parlé ensemble déjà. Ouais. Mais enfin, pourquoi lui ?
Écoutez, je ne vais pas me répéter puisque je vous ai déjà longuement parlé de Mohamed Boudiaf. Mmh. Enfin, pour faire simple, disons que ce personnage est emblématique puisqu'il a été l'un des pionniers du combat contre la colonisation.
Bien sûr.
Et surtout, il a un avantage énorme sur les autres candidats possibles. Il vit depuis de longues années à l'étranger, au Maroc, exactement.
Mais pourquoi est-ce un avantage ?
Tout simplement parce que les généraux estiment qu'il est coupé de la réalité algérienne et donc qu'il ne sera pas en mesure de s'occuper de leurs affaires.
Ouais, c'est-à-dire qu'il ne sera pas susceptible de comprendre le système mafieux qui a été mis en place.
Voilà. Mais la nouvelle marionnette va rapidement échapper à ses créateurs. Boudiaf n'est pas n'importe qui. Et il n'est pas décidé à s'en laisser compter rapidement et malgré la surveillance constante dont il est l'objet, il donne d'inquiétants signes d'indépendance. Pire, il dénonce publiquement la corruption, commande une enquête, fait arrêter un important trafiquant lié à un général et limoge un autre officier supérieur, membre de la clique. Bref, Boudiaf devient très gênant.
Je crois me souvenir que les officiers qui ont entrepris d'enquêter sur la corruption, là, seront abattus.
Et on mettra leur assassinat sur le compte des islamistes.
Ouais. Et puis on finira par éliminer Boudiaf lui-même.
Oui, oui, fin juin 92, soit à peine 6 mois après son retour en Algérie. Ouais,
c'est un obscur sous-lieutenant qui l'abat.
Oui, un militaire de la direction de la sécurité militaire qui a été manipulé et qui sera bien sûr accusé d'être un islamiste enragé.
Oui, mais pour vous, c'est clair, ce sont les généraux qui sont derrière.
Évident. Des généraux qui, en se servant du fils pour arriver au pouvoir, ont ouvert la boîte de Pandore et déclenché un cycle infernal.
La mafia des généraux. Tel est le titre de l'ouvrage écrit par un ancien officier algérien, Hichem Aboud, qui a trouvé refuge en France. Son livre, paru en 2002 chez Jean-Claude Lattès, est un véritable réquisitoire. Voici comment il décrit l'arrivée à Alger de Mohamed Boudiaf, qu'on est allé solliciter au Maroc et qui a d'ailleurs hésité avant d'accepter le poste de chef d'État qu'on lui offrait sur un plateau. En une semaine, l'affaire est bouclée. Le 16 janvier 1992, Boudiaf arrive à l'aéroport d'Alger. Il se voit tendre un bout de papier sur lequel est écrit un discours dont il n'a pas la moindre idée. Un avant-goût de ce que va être son rôle entre les mains des généraux. En vieux routier de la politique, il plie le papier, le met dans sa poche et improvise un discours simple avec la spontanéité des patriotes sincères. Pourquoi Boudiaf, puisque les décideurs voulaient un homme analphabète, inculte et apolitique? Si Taïeb El-Ouattani, c'est son nom de guerre, ne répond à aucun de ces critères. Mais il est affligé d'un lourd handicap dont ils vont tirer grand profit. Sa méconnaissance de la réalité algérienne après tant d'années d'exil. Il ignore tout de la nature du pouvoir algérien. Il ne sait pas qu'il va avoir affaire à des mafieux qui n'hésiteront pas à le liquider. Il est le premier à dénoncer la mafia politico-financière, mais il ne sait pas qu'il vise ceux-là même qui l'ont tiré de son exil pour l'installer au palais présidentiel. Un palais qu'il trouve vide. Il n'y avait pas un seul papier, pas un dossier laissé par son prédécesseur. L'auteur ajoute que le président Boudiaf s'entoure de conseillers qui vivaient comme lui en exil et pourtant, en moins de 6 mois, il va comprendre pour son plus grand malheur.
Depuis le début de cet entretien-là, vous parlez des généraux, essentiellement des anciens de l'armée coloniale, mais qui sont-ils exactement?
Sont tous ceux qui ont la haute main sur les forces de sécurité. Enfin, à quoi bon donner leur nom? Ces gens-là n'hésitent jamais à vous attaquer.
Oh, ça ne leur porte pas toujours chance, hein, celui qui est récemment venu à Paris.
Oui, poursuivi en diffamation, un ancien officier algérien, auteur d'un livre accablant sur l'armée et son implication dans les exactions du GIA. Mais le procès a mal tourné pour
lui. Oui, c'est l'accusé qui est devenu l'accusateur.
Oui, c'est ça. Bon, je pense qu'ils se reconnaîtront. J'ajoute que certains ont été à bonne école puisqu'ils ont été formés par les soviétiques.
KGB?
Exactement. Il faut aussi noter qu'il existe une remarquable continuité. L'homme qui a été le directeur du cabinet de Chadli occupe aujourd'hui les mêmes fonctions auprès du président Bouteflika. Ces hommes et quelques autres sont les vrais maîtres de l'Algérie.
Bien. Alors, revenons à ce que vous avez dit. Pour reprendre vos propres termes, en manipulant le fils, ces généraux ont ouvert la boîte de Pandore.
Oui, oui, je vous explique. Ils se sont servis du fils, mais ils n'en ont plus besoin. Mais ils sont bien placés pour savoir que le mouvement islamiste demeure une importante force de contestation. Par conséquent, ils vont s'attaquer au fils. Et très rapidement, après leur putsch, ils prononcent la dissolution du parti islamiste et de très nombreux militants sont arrêtés et déportés dans le sud.
La répression.
Et une répression très dure. Ces généraux ne sont pas des tendres, hein. Ils l'ont démontré à plusieurs reprises. Mais ce faisant, ils vont précipiter les islamistes dans la clandestinité et la lutte armée. C'est pourquoi je vous parlais de cycle infernal. Mmh. Naturellement, dans le mouvement islamiste, ce sont les plus durs, les plus violents qui donnent le ton. C'est ainsi que se forment les premiers maquis.
Jusque-là, les islamistes n'avaient jamais choisi la lutte armée?
Dans les années 80, on avait assisté à la naissance de quelques mouvements armés, mais la reconnaissance officielle du fils en 1988 avait mis fin à ces tentatives. Là, c'est différent, c'est une véritable guerre civile qui commence. Une guerre atroce d'ailleurs, qui va faire des dizaines de milliers de morts et qui aura des conséquences tragiques jusque chez nous. Car la France finira par être prise en otage dans ce conflit algéro-algérien.
À cause de son soutien aux généraux?
Bien sûr. Même si les gouvernements successifs ne veulent pas donner l'impression de choisir entre les généraux et les islamistes. Il est clair que nous sommes du côté des hommes au pouvoir à qui nous accordons une aide économique importante et à qui nous livrons du matériel militaire. Ça va nous valoir d'être directement impliqués. Et cela commence en 1993 avec l'assassinat de 2 géomètres français. Puis il y a ce curieux enlèvement de 3 fonctionnaires du consulat.
Un enlèvement bidon, avez-vous dit, quand vous avez parlé de la tragique histoire des moines de Tibérie.
Oui, en fait, et on le sait aujourd'hui, ce sont les services algériens qui ont organisé ce kidnapping. Parce qu'ils voulaient pousser le gouvernement français à agir contre les islamistes qui se trouvaient sur notre territoire.
Ce qui sera fait d'ailleurs.
Hein, c'est la fameuse opération Chrysanthème, ordonnée par Charles Pasqua. Une rafle dans les milieux musulmans opérée sans grand discernement. Dans le même temps apparaît en Algérie le GIA, le groupement islamique armé. En fait, nous en avons déjà parlé, il n'y a pas un seul GIA unifié, mais des GIA qui vont agir à leur guise et perpétrer des massacres.
Des massacres de civils, surtout.
Oui. Jusqu'en 1994, la branche armée du fils, l'AIS, Armée islamique du salut, s'est contentée d'attaquer des objectifs militaires. Avec le GIA, c'est tout autre chose. Civils, policiers, militaires sont indifféremment pris pour cible. Et autant vous le dire, ça arrange le pouvoir.
Pour quelle raison?
Il y en a plusieurs. D'abord, ça permet de diaboliser les islamistes, donc de justifier la politique de répression menée par les forces de l'ordre. Et puis ensuite, les horreurs perpétrées par le GIA font qu'à l'étranger, on est enclin à soutenir les généraux. La deuxième raison est peut-être plus machiavélique. L'existence du GIA permet de se débarrasser d'éléments gênants.
Ouais. C'est-à-dire que lorsqu'on veut éliminer un opposant, on met ça sur le compte du GIA.
Oui, c'est pratique. Hein. La troisième raison est encore plus cynique. Les généraux mettent en avant leur lutte contre le terrorisme pour rester au pouvoir et mettre le pays en coupe réglée, au nom de la lutte contre l'intégrisme.
Oui, parce qu'ils apparaissent comme indispensables.
Naturellement.
Mais si je vous entends bien, ils sont donc, tentés de prolonger ce conflit.
Forcément. Parce qu'il est quand même difficile d'expliquer comment l'armée qui est puissamment équipée, qui dispose du matériel le plus performant, grâce à la France notamment, n'est pas encore venue à bout de ces maquisards qui peuvent descendre dans les villages et égorger impunément, sans que l'armée, parfois casernée à proximité, n'intervienne. Et ça fait 10 ans que ça dure.
Ouais. Alors, ces généraux sont donc implicitement complices des tueurs du GIA?
Quand ils ne sont pas à l'origine même de la création de quelques GIA.
Ah, c'est une accusation excessivement grave.
Oui, surtout quand on pense aux sanglants attentats perpétrés en France. Mais ça, j'y reviendrai, je vous le promets. En tout cas, pour la malheureuse population algérienne, ça signifie qu'elle est prise en étau entre une clique corrompue et des fous sanguinaires. L'existence de l'une justifiant celle de l'autre. Mais avant d'aborder les relations contre nature qui existent donc entre les services algériens et les GIA, je voudrais attirer votre attention sur un point très curieux.
Allez-y, je vous écoute.
Eh bien, est-ce que vous ne trouvez pas étrange que les commandos du GIA ne se soient pratiquement jamais attaqués aux installations pétrolières, à l'exception d'un sabotage opéré contre une entreprise française?
Elles sont peut-être très protégées.
Oui, ça c'est certain, mais on a même prétendu que si l'armée ne parvenait pas à réduire les maquisards, c'est qu'une grande partie de ses effectifs était mobilisée justement pour assurer la sécurité de ses installations.
C'est logique, hein, les hommes au pouvoir tiennent à leur rente pétrolière.
Oui, certes, mais enfin je suis persuadé qu'il y a autre chose.
Quoi, faut me le dire.
Beaucoup de ces puits de pétrole sont aujourd'hui exploités par des sociétés américaines. Et les États-Unis, au moins jusqu'au 11 septembre, n'ont jamais été vraiment hostiles aux islamistes. Après tout, il ne faut pas oublier que Oussama Ben Laden a longtemps collaboré avec la CIA.
Oui, enfin, contre les soviétiques en Afghanistan.
Oui, et contrairement aux autorités françaises, le gouvernement des États-Unis a envisagé sans trouble, excessif d'ailleurs, l'arrivée au pouvoir des islamistes à Alger. Mieux, un des leaders du FIS, un certain Anwar Adam, a longtemps représenté officiellement son mouvement aux États-Unis.
Donc avec la bénédiction de Washington?
Oui, ce Radam, lorsqu'il se rendra à Rome en 1995 pour participer à une réunion des principaux partis algériens, fera le voyage dans l'avion du ministre américain de la Justice. Je peux aussi ajouter que cette conférence censée apporter la paix en Algérie a sans doute été suscitée par la CIA.
Oui, mais vous la voyez partout.
Admettons. Bon. Non, ce que je veux dire, c'est que je soupçonne les Américains d'avoir négocié avec les islamistes dans le seul but de protéger leurs installations pétrolières.
Et en contrepartie, alors, qu'aurait-il à faire pour acheter cette sécurité?
Là, je vais vous étonner, mais je ne sais pas. Enfin, écoutez, il n'est pas trop difficile de deviner. De quoi avaient besoin les maquisards? D'armes et d'argent.
Impossible de vérifier cette thèse. Mais, par contre, il n'est pas sans intérêt de lire un rapport de la RAND Corporation, l'un des centres de recherche officieux de la CIA, rapport écrit en 1995 par un certain Graham Fuller. Il écrit d'abord: la question n'est pas tellement de savoir si le fils arrivera au pouvoir, mais comment il y parviendra, jusqu'à quel point il le contrôlera et avec qui il devra le partager. Dans la suite de son rapport, Fuller envisage sereinement cette hypothèse qu'il ne juge pas dommageable pour les intérêts des États-Unis. Au contraire, il pense que l'islamisme est un corps soluble dans le nouvel ordre mondial. L'expérience vaut donc d'être tentée. Et il conclut, je le cite à nouveau, « L'islamisme ne ressemble pas au communisme. Il n'a pas de direction, pas de programme central. La politique islamiste découle directement de la culture locale traditionnelle. Enfin, les mouvements islamistes présentent une diversité considérable et le principe antidémocratique ne leur est pas inhérent. De surcroît, ils évoluent avec le temps. Enfin, les gouvernements islamistes ont toutes les chances de se multiplier au Moyen-Orient dans les années à venir, prenant de nombreuses formes différentes. Ils auront à apprendre à vivre avec l'Occident, et l'Occident aura à apprendre à vivre avec eux. Cette expérience avec le fils algérien a donc une portée considérable. Mais c'était, je vous le rappelle, avant que George Bush ne décrète la lutte contre l'empire du mal. À 100 000 morts, et peut-être plus, tel est le terrible bilan de la guerre civile qui déchire l'Algérie depuis presque 10 ans. La semaine passée, dans la première partie de cet entretien consacré à l'islamisme algérien, M. X a montré comment un clan de militaires corrompus s'était servi des intégristes musulmans pour accaparer le pouvoir. Mais, en procédant ainsi, ces généraux ont ouvert la boîte de Pandore et précipité les islamistes dans la clandestinité et la violence. Toutefois, toujours selon M. X, la lutte contre le terrorisme justifie aussi le fait que l'armée continue à maîtriser les principaux leviers du pouvoir algérien. Bref, a-t-on affaire à un duo infernal dont l'existence de l'un suffit à expliquer celle de l'autre? Et dans ce cas, les militaires algériens, pour sauvegarder leurs privilèges, n'ont-ils pas intérêt à faire en sorte que le terrorisme continue à ensanglanter le pays? Dans ce cas, les GIA, les groupes islamistes armés, ne seraient-ils pas infiltrés ou manipulés? La question est d'autant plus troublante pour nous que le GIA a frappé en France. Le procès de deux des acteurs de la vague d'attentats de 1995 vient d'ailleurs de se terminer tout récemment avec des peines à perpétuité. C'est à toutes ces questions que M. X se propose de répondre. Et bien sûr, il sera aussi question des éventuelles relations entre ces groupes armés et la nébuleuse Al-Qaïda.
Nous l'avons vu, les relations entre la France et l'Algérie ont toujours été excessivement compliquées. D'une part, parce que la colonisation a laissé des traces quasiment indélébiles, et puis d'autre part, parce que nous accueillons une importante communauté d'origine algérienne. Et pour l'Algérie, la France, c'est tantôt un repoussoir, tantôt un aimant.
Un repoussoir.
Oui, le pouvoir algérien est prompt à voir la main de la France dans les événements successifs qui l'agitent. Mmh. D'ailleurs, très pratique, hein, d'accuser l'ancien colonisateur, ça permet de justifier ses propres erreurs.
Oui, c'est pratique, en effet. Et un aimant?
Les Algériens ne cessent de regarder vers la France. Ils suivent nos programmes de télévision, et les jeunes qui sont trop souvent chômage aspire à venir travailler chez nous. Ensuite, en dépit des troubles, nous n'avons jamais interrompu notre aide économique et militaire. Et l'Algérie demeure un de nos meilleurs clients.
Et puis la langue. Hein.
Oui, malgré les campagnes d'arabisation, des campagnes maladroites et très mal vécues, on continue à parler français en Algérie. Mais je ne m'étends pas, car nous avons déjà abordé ces questions dans la première partie de cet entretien.
Oui, d'accord, mais enfin... Alors, comment avons-nous fini par être mêlés à cette guerre algéro-algérienne qui n'en finit pas de durer,
hein? Avec son cortège d'horreurs presque quotidienne. Alors comment, me demandez-vous? D'abord, il y a une réalité. La montée de l'islamisme ne pouvait pas épargner notre pays. Et très tôt, des intégristes musulmans envoyés ou payés par l'Arabie Saoudite, entre autres, ont manœuvré au sein de la communauté immigrée en France. Puis il faut bien dire que les autorités françaises n'ont pas toujours vu cela d'un mauvais œil.
Pour quelle raison?
Parce que c'était un facteur d'apaisement. Les jeunes des cités, des œuvrés, tentés par la délinquance, se calment dès lors qu'ils prennent le chemin de la mosquée. Mais l'arme, là, est à double tranchant. Beaucoup de ces imams qui ont été envoyés de l'étranger professent un islam extrémiste et fondamentaliste. Bref, on perd des voyous, mais on gagne des talibans.
Vous n'exagérez pas un peu, là?
Peut-être. Mais dans leur grande majorité, les musulmans français sont hostiles à l'intégrisme. Il n'en reste pas moins que certains jeunes ont été tentés et le demeurent encore. Ça veut dire que les mouvements terroristes islamistes disposent d'une base où il aurait été aisé de recruter.
Ouais. On s'en apercevra justement lors des attentats de 1995.
Oui, c'est juste. Mmh. Mais n'allons pas trop vite. J'ajoute que de nombreux musulmans, surtout les jeunes, ont très mal vécu l'engagement français lors de la guerre du Golfe.
Ils l'ont d'ailleurs manifesté.
Oui. D'autre part, il y a l'attitude de la France vis-à-vis du pouvoir algérien. Lorsque les généraux ont pris le pouvoir à la suite du premier tour des élections législatives qui ont vu la victoire du FIS, le Front Islamique du Salut, le gouvernement français a condamné du bout des lèvres. Mais très vite, sans le dire, nous avons choisi le parti du nouveau pouvoir. Ça s'est traduit souvent par une aide militaire accrue.
Ouais, pour aider les généraux à lutter contre les maquis islamistes.
Oui, il faut reconnaître que nous avions tout à craindre de l'établissement d'un autre Iran à nos portes. Faut pas oublier qu'en 1994, la branche armée du FIS, l'AIS, contrôlait presque 50% du territoire algérien. Et puis, il y avait la possibilité que la contagion gagne les autres pays du Maghreb.
Le choix était quand même malaisé.
C'est vrai, parce que c'était une dictature que nous soutenions. Faut d'ailleurs remarquer qu'au sein du gouvernement de la deuxième cohabitation...
C'est le gouvernement Balladur, ça.
Oui. Tous les ministres n'étaient pas sur la même longueur d'onde.
Par exemple,
Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur, était résolument partisan d'aider Alger. Mais Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères, était beaucoup plus circonspect et a pris ses distances. Toutefois, c'est la ligne Pasqua qui va triompher.
Mais pourquoi celle-là?
Parce qu'il est évident que chez nous aussi, l'islamisme progresse dangereusement. La France devient peu à peu une base arrière pour les militants du FIS qui mènent la lutte armée contre le pouvoir algérien. Et qui est mieux placé que le ministre de l'Intérieur pour le constater?
Oui, mais quand vous parlez de base arrière...
Je pèse mes mots. des dirigeants islamistes qui ont trouvé refuge en France se livrent à une propagande très agressive. Ils approuvent ouvertement les actions terroristes perpétrées par le FIS en Algérie. Et ils attaquent non seulement le gouvernement algérien, mais d'une façon plus générale, l'Occident laïque et impie.
Ouais, alors j'imagine qu'ils accusent la France de soutenir les généraux algériens.
Bah, c'est normal.
Ouais. Et comment Paris réagit là, à ce moment précis?
Bah, des journaux de propagande sont interdits. Plus inquiétant, une cache d'armes est découverte dans les locaux d'une association islamique. Et la police observe une augmentation de la délinquance chez des immigrés fraîchement arrivés d'Algérie.
Oui, pourtant dit que délinquance et islamiste étaient antinomiques.
C'est exact, mais dans ces cas-là, il s'agit vraisemblablement de trafic destiné à financer le mouvement. Le développement de l'islamisme sur notre territoire n'échappe pas non plus au pouvoir algérien. Et les Algériens pressent notre gouvernement d'agir plus fermement contre ces fondamentalistes. Et comme de leur point de vue, les choses n'avancent pas assez vite, ils se livrent à l'automne 93 à une véritable mascarade.
Oui, on a parlé, là, c'est le faux enlèvement des trois diplomates français revendiqués par le GIA.
Oui, le GIA qui fait à cette occasion son apparition sur la scène terroriste. Ouais.
Mais en fait, m'avez-vous dit, là, ce sont les services algériens qui sont à l'origine de cette affaire.
Hein. Ça, j'en suis persuadé. C'était une forme de pression que le pouvoir algérien entendait exercer sur le gouvernement français. Et notez-le bien, les généraux vont être entendus puisque Charles Pasqua va ordonner une vaste rafle dans les milieux musulmans fondamentalistes proches du FIS. Des dizaines de militants sont mis en garde à vue. Mais au final, la pêche est relativement infructueuse et la plupart de ces hommes sont relâchés ou expulsés. Toutefois, ça laissera des traces.
Parce que tous ces militants là, ont maintenant la preuve que les autorités françaises se sont clairement rangées du côté des généraux d'Alger, c'est
oui,
ça?
Oui, ouais. La rancœur est d'autant plus forte que la rafle a aussi visé des islamistes qui ne représentaient aucun danger.
Oui, mais qui vont être tentés peut-être de se radicaliser.
C'est certain. Ces hommes, mais aussi tous ceux qui partagent leurs convictions religieuses, pensent non sans raison qu'ils sont victimes d'une répression aveugle et injuste. Car disent-ils, après tout, ils soutiennent un mouvement, le FIS, qui a légitimement remporté les élections démocratiques.
Mmh. Vous avez dit, en parlant de la première rafle, que la pêche avait été relativement infructueuse. Elle a donc permis d'obtenir quelques résultats, quand même.
Oui, oui. Ce que la police soupçonnait se confirme. Il existe bien des groupes prêts à se livrer à des actions violentes. Des groupes qui sont en liaison avec les maquisards algériens, qu'ils appartiennent au FIS ou à ce mystérieux GIA qui vient tout juste d'émerger. Et les opérations de police qui vont suivre en apporteront la preuve.
Mmh. Et sous quelle forme, alors?
Des armes, des explosifs sont découverts. À l'évidence, le terrorisme islamiste a implanté un véritable réseau en France. Et une question se pose. Est-ce que les membres de ce réseau servent seulement de base arrière aux terroristes ou est-ce qu'ils envisagent de passer à l'action sur notre territoire?
Et comment le savoir?
Encore une fois, c'est Pasqua qui, en portant la conviction du Premier ministre Édouard Balladur, va trancher. En novembre 94, il décide d'organiser une nouvelle rafle. Cette affaire commence de façon très curieuse. Un jour, un policier perspicace s'étonne de voir un truand notoire, Mohamed Chalabi, fréquenter assidûment une mosquée de la banlieue parisienne. Cet ancien trafiquant de drogue devient même imam et prêche régulièrement en préconisant le djihad.
La guerre sainte.
Oui. Et il crée plusieurs associations chargées d'éduquer et de convertir les jeunes.
Curieuse reconversion, en effet.
N'est-ce pas, hein. Intrigués, les policiers s'intéressent donc à ce Chalabi et à ses trois frères. Filature, écoute, enfin la police met le paquet. Et bientôt, il acquiert la conviction que les associations créées par Chalabi dissimulent en réalité un réseau de soutien logistique au GIA.
Et donc décidé de passer à l'action?
En novembre 1994, oui. Une petite centaine de personnes sont arrêtées. Et cette fois, la pêche est fructueuse. On découvre un véritable arsenal, armes de guerre, munitions, produits chimiques et systèmes de transmission sophistiqués. Et parmi les hommes arrêtés, plus de 70 seront mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actions terroristes.
Mais des actions terroristes sur notre sol?
Même si les policiers ne le disent pas ouvertement, ils en sont persuadés. Les frères Chalabi s'apprêtaient à passer à l'action en France même, pour punir notre gouvernement qui soutient les généraux algériens. Mais la réponse des islamistes ne va pas tarder.
L'ouvrage porte en sous-titre « Les filières du terrorisme islamiste ». Écrit par Ali Laidi, ce livre très récent, « Le djihad en Europe » paru au Seuil, donne un éclairage très complet sur la mouvance islamiste. Et j'y ai trouvé ces quelques lignes sur Chalabi. Mohamed Chalabi, dit Momo, l'aîné des frères, ne correspond plus complètement au portrait figurant dans son casier judiciaire. Il n'est plus ce truand à la belle gueule, tombé pour la première fois à 20 ans pour trafic de drogue. Il semble loin aussi le temps où il fréquentait les prisons pour viol avec violence. Un séjour en prison où il côtoie des islamistes lui ouvre les yeux. Il retourne alors vivre 2 ans à Alger dans le quartier de Leveillé. A-t-il rencontré à l'époque Mohamed Halal, dit Mot l'Éveillé, baptisé ainsi en référence à son quartier d'origine, lui-même ancien truand, considéré comme le premier émir des GIA. C'est possible. En tout cas, lorsqu'il rentre en France, le truand troque ses habits de gigolo irascible pour une tenue plus modeste et conforme à son engagement spirituel. Fini la drague et la drogue, place aux prières et au combat pour l'établissement de l'islam en Algérie. Il s'improvise même imam à la mosquée de Choisy-le-Roi. Ses khutbas, prêches, se moquent de la spiritualité et de l'exégèse coranique. Cet imam, un culte, prône le djihad en Algérie et invite des fidèles apeurés à soutenir leurs frères algériens. Les chalabis iront même porter la bonne parole en djellaba au meeting de la FAF, la Fraternité Algérienne en France. Il faut se montrer pour que tout le monde sache que les chalabis ne dealent plus, ne volent plus, ne violent plus.
La réponse, vous disais-je, n'a pas tardé. Un mois et demi après le démantèlement du réseau Chalabi, un commando du GIA prend en otage les passagers d'un Airbus d'Air France qui allait décoller d'Alger. Vous connaissez l'histoire?
Dans ses grandes lignes, oui.
Alors je vous le rappelle brièvement. Quatre terroristes s'emparent de l'avion. Le GIA, dont l'émir est alors Jamel Zitouni.
C'est l'homme qui porte la responsabilité de l'assassinat des sept moines de Tibérine.
Et de bien d'autres massacres encore.
Oui, mais vous m'avez dit également qu'il était vraisemblablement manipulé par les services algériens.
Tout à fait, oui.
Alors, l'était-il déjà au moment de ce piratage de l'Airbus?
Sans doute.
Ouais. Ça éclaire tout autrement cette affaire, hein?
Peut-être, mais enfin, je veux simplement vous dire qu'à l'époque, le pouvoir algérien voulait absolument démontrer que la menace du terrorisme islamiste n'était pas vaine. Et ça explique en partie ce qui suivra en 1995. Enfin, un peu de patience. Je disais donc, le GIA menace d'égorger tous les passagers et de faire sauter l'avion.
À Alger?
Oui, sur le tarmac de l'aéroport.
Et quelles sont les revendications, alors, de...
Eh bien, le GIA veut que Paris cesse de soutenir inconditionnellement le pouvoir algérien et il exige la libération de plusieurs prisonniers islamistes en Algérie, dont les chefs du FIS.
Mais ce qui ne dépend pas de Paris.
En effet. Donc, des négociations difficiles s'engagent entre les autorités algériennes et les terroristes. Trois passagers sont égorgés et quelques dizaines d'autres sont libérés. Naturellement, la France veut avoir son mot à dire, mais Alger renacle. C'est une question de souveraineté nationale.
Ce qui est vrai.
Oui, mais l'avion et beaucoup de passagers sont français. En outre, Paris a la conviction qu'Alger ment et ne communique pas toutes les informations dont il dispose. Et il faut menacer les Algériens de rompre les relations diplomatiques pour qu'ils acceptent de laisser décoller l'avion. Avec juste assez de kérosène pour rejoindre Marseille.
Oui, je crois me souvenir, on craignait une opération du type 11 septembre au-dessus de Paris, hein, c'est
oui,
ça?
Oui, enfin, ouais. La suite, vous la connaissez, l'Airbus se pose donc à Marseille, et là, un commando du GIGN parvient à pénétrer dans l'avion et à tuer les quatre terroristes.
Une opération dont s'enorgueillira le gouvernement.
À juste titre, hein. Mais la réplique du GIA est immédiate. Dès le lendemain, quatre pères blancs résidant en Algérie, dont trois Français, sont assassinés.
Et vient ensuite la vague d'attentats de 1994.
Ben, n'allons pas trop vite quand même. Enfin, il est clair dès ce moment.
Donc fin 1994.
Oui, il est clair que tôt ou tard les islamistes frapperont en France. Le FIS, qui n'était pourtant pas partie prenante dans l'affaire de l'Airbus, publie un communiqué menaçant notre pays de représailles. Et c'est une véritable course de vitesse qui s'engage entre les terroristes qui vont tenter de reconstituer leur réseau démantelé et la police française. Et pas seulement la police française d'ailleurs, parce qu'on va bientôt s'apercevoir que c'est un vrai réseau européen qui se constitue.
Alors, est-ce que dès ce moment, on peut soupçonner Al-Qaïda d'être derrière ces mouvements terroristes?
Certainement. L'organisation mise en place par Ben Laden a très logiquement infiltré les mouvements islamistes tels que le FIS ou le GIA. Après tout, ces gens-là poursuivaient les mêmes objectifs. La lutte contre la culture occidentale et l'instauration de régimes islamistes. Et la France était particulièrement visée, non seulement parce qu'elle soutenait les gouvernements anti-islamistes des pays du Maghreb, mais aussi parce que la vaste communauté immigrée en France était un réservoir de militants.
C'est ainsi qu'on verra de jeunes beurs partir en Afghanistan ou au Pakistan.
Où ils subiront une formation à la fois idéologique et militaire.
Alors, revenons à cette course contre la montre dont vous parliez.
La première offensive de la police a lieu en Belgique. Un réseau est identifié et anéanti. des armes, des explosifs, des faux papiers sont découverts. Mais aussi les photos de deux hommes dont on va beaucoup reparler. Un certain Ali Touchent et un autre nommé Boualem Ben Sraddi.
Oui, celui qui vient d'être jugé par la cour d'assises spéciale
oui,
à Paris.
Oui. Hein. Puis un peu plus tard, au tout début de l'été 95, un autre réseau comprenant plusieurs dizaines de membres sur l'ensemble du territoire est démantelé par la police française. Mais le chef, nommé Kerouche, parvient à s'enfuir et gagne l'Angleterre.
Ah, où existe un important centre de propagande islamiste.
Et où il rejoint certainement Rachid Ramda, qui sera identifié plus tard comme étant le financier des poseurs de bombes de 1995, avec de l'argent qui provenait d'Al-Qaïda, bien sûr.
Est-ce que la police pouvait penser qu'en ayant porté à nouveau un coup très dur aux terroristes, elle avait gagné en tranquillité?
Un répit, vous voulez dire?
Ah oui, oui, oui.
Non, pas vraiment. Dans les services, grâce à des informations concordantes, on s'attendait à ce que de nouveaux commandos soient envoyés en France. D'autre part, il résultait des enquêtes effectuées par les renseignements généraux ou la DST que des réseaux existaient toujours et que les islamistes étaient bien implantés dans les banlieues. Et ils en ont eu la preuve dès le mois de juillet avec l'assassinat du cheikh Sraoui à Paris.
Rappelez-moi pourquoi il a été tué.
Eh bien, ce vieil homme était l'un des fondateurs du FIS. Et après le putsch des généraux, il avait trouvé refuge en France. Mais tout en étant partisan d'un régime islamiste en Algérie, il avait condamné la violence avec la plus grande fermeté. Ça en faisait ipso facto un traître pour les durs du GIA. D'autant qu'il entretenait peut-être des relations avec la police française.
Ah bon, un informateur?
Bon, ça n'est pas exclu.
Mais est-ce qu'il avait reçu des menaces?
Oui, on lui avait même intimé l'ordre de ne plus parler.
De ne plus prêcher, oui.
C'est ça, mais le vieil homme n'avait pas tenu compte de ces menaces et il avait même refusé la protection de la police.
Oui, parce qu'il pensait peut-être qu'on n'oserait pas s'attaquer à un imam.
Fondateur du FIS, en outre. Il a eu tort, car les tueurs, ils étaient deux, n'ont pas hésité à l'abattre à l'intérieur même de sa mosquée. Au passage, ils ont d'ailleurs tué un autre homme qui tentait de s'interposer. Et après ce double assassinat, il s'est passé quelque chose de très curieux. Les deux tueurs se sont enfuis, mais dans leur course, ils ont abandonné un sac.
Perdu, vous voulez dire?
Bien, je ne sais pas.
Attendez, soyez plus clair, là.
C'est le contenu de ce sac qui pose question. Car à l'intérieur, les enquêteurs ont découvert tout un matériel qui pouvait être destiné à fabriquer une bombe artisanale. Et je me demande pourquoi ces deux assassins portaient ce sac qui n'était nullement nécessaire à leur mission.
Et qui pouvait même les embarrasser.
Alors je me dis, mais sans avoir de certitude, qu'ils ont abandonné ce sac pour adresser un message à la police.
Mais un message quoi, pour annoncer les futurs attentats?
C'est une possibilité, oui. Quoi qu'il en soit, ce double assassinat et le contenu du sac prouvaient que les réseaux du GIA étaient toujours bien vivants et que les terroristes avaient même durci leur action. Et n'ont malheureusement pas tardé à le démontrer. La première bombe éclate 2 semaines seulement après l'assassinat du cheikh Sraoui.
C'est dans le RER à la gare Saint-Michel.
Oui, un vrai massacre. Mais inutile d'y revenir, car vous avez encore en mémoire les terribles images de cet attentat qui a causé la mort de 8 personnes et fait des dizaines de blessés. Ensuite, il y aura le dépôt d'une autre bombe près de la place de l'Étoile. Puis l'explosion de colis piégés sur un marché, boulevard Richard Lenoir à Paris, devant une école juive à Lyon et encore à Paris, au métro Maison-Blanche et à la station du Quai d'Orsay.
Mais c'est la tentative ratée perpétrée sur la ligne TGV Paris-Lyon, hein,
oui,
qui va permettre à la police d'avancer.
Oui, oui, car les enquêteurs vont miraculeusement trouver sur un adhésif qui entoure le dispositif meurtrier une empreinte digitale. Celle d'un jeune délinquant d'origine algérienne déjà connu des services de police. Et ça, ça va permettre de remonter rapidement la piste des terroristes. Mais sans vouloir amoindrir les mérites de la police, je suis aussi certain que les enquêteurs ont bénéficié de tuyaux qui provenaient directement d'Alger. Car notre contre-espionnage...
La DST.
Oui, bien sûr, la DST continuait à entretenir d'excellentes relations avec les services algériens.
Les Algériens, en effet, ne manquent pas de fournir de nombreuses informations aux services français après les premiers attentats. Mais les autorités se méfient et doutent de la fiabilité des tuyaux qu'on leur fournit. En septembre 1995, le ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, s'en ouvre à quelques journalistes de la presse régionale. La suite, je l'emprunte à Hubert Coudurier, auteur d'un ouvrage intitulé « Le monde selon Chirac, les coulisses de la diplomatie française ». C'est Jean-Louis Debré qui parle. J'avais la hantise qu'on me trouve rapidement un coupable pour calmer les esprits et rassurer les Français. Puis que l'on découvre que c'était une fausse direction. La sécurité militaire algérienne voulait que l'on parte sur des pistes pour éliminer des gens qui la gênent, écrit Dominique Gerbaud dans La République du Centre-Ouest, citant les propos du ministre. L'information reprise par Le Monde provoque un tollé à Alger. Debré affirme ne pas avoir tenu de tels propos et accuse la presse d'avoir enfreint le « off ». Gerbeau maintient sa version et explique qu'il y avait eu un accord préalable pour reprendre ses propos de déjeuner. Le ministre de l'Intérieur est-il pour autant furieux de s'être laissé piéger ? Pas du tout. C'était une manière de leur faire passer un message pour qu'ils arrêtent de nous bourrer le mou, avoue-t-il après coup. Au-delà de cette polémique, l'explosion du RER est-elle un coup tordu d'une faction de l'armée ou un attentat islamiste ? Le doute existe dès le départ. Mais il importe d'abord de dévider la pelote pour retrouver les auteurs et calmer l'opinion publique. Le 31 juillet, les services algériens confirment à leurs homologues français que deux groupes du GIA sont présents sur le territoire national. Des commandos suicides contre la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe pourraient être lancés, affirment les Algériens. Les Français pataugent, s'accrochent à des rumeurs et restent dans le brouillard. Le livre de Hubert Coudurier a été publié en 1998 chez Calman Lévy.
En tout cas, tuyau ou pas des services algériens, la police va progresser très vite.
C'est juste, oui, oui.
Une question avant d'en venir à l'enquête proprement dite là. Est-ce que ces attentats particulièrement meurtriers sont revendiqués ?
Oui, oui. Jamel Zetouni, l'émir du GIA, en assume la responsabilité. Et dans l'un de ses communiqués, il annonce de nouveaux attentats et enjoint au président Chirac de se convertir à l'islam.
C'est l'humour ?
À votre avis. Alors l'enquête, la fameuse empreinte digitale retrouvée sur la bombe du TGV, mène tout droit à un certain Khaled Kelkal, déjà connu des services de police et recherché pour tentative de meurtre sur des policiers.
Ouais, c'est un jeune beurre.
Oui.
Hein, c'est
ça. Kelkal est né en Algérie, mais il n'avait qu'un mois quand il est venu habiter avec sa famille Vaux-en-Velin dans la banlieue lyonnaise. C'est un garçon plutôt tranquille et qui, contrairement à beaucoup d'autres jeunes de ces quartiers difficiles, fait des études secondaires correctes. Mais vous vous en souvenez sans doute, au début des années 90, de violents incidents éclatent à Vaux-en-Velin.
On assiste même à de vraies émeutes entre les beurs et les forces de l'ordre.
Oui, et à tort ou à raison, je ne sais pas, Kelkal est accusé d'avoir pillé un magasin. Il est arrêté et condamné. Mais quand il ressort de prison, ce n'est plus le même jeune homme. Il porte la barbe, professe des idées fondamentalistes et rompt pratiquement avec sa famille. Puis, il part en Algérie où il rejoint les rangs du fils. Dès cette époque, il est repéré par la sécurité militaire algérienne.
Et quand revient-il en France, là ?
Bon, on ne sait pas exactement. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va devenir l'un des hommes de main d'un réseau du GIA implanté dans la région lyonnaise. L'expertise de l'arme qu'on retrouvera dans son sac permettra même de l'impliquer dans l'assassinat de l'imam Sahraoui. Mais je vais vite. Kelkal va faire l'objet d'une vraie chasse à l'homme.
Ouais, je me souviens, il va finir par être abattu par les gendarmes.
Oui, oui. L'analyse des documents qu'il portait sur lui permet à la police de remonter la piste des autres membres du réseau et de prévenir d'autres attentats. Et c'est ainsi que Boualem Ben Saïd et Ali Belkacem, deux des dirigeants de ce réseau du GIA en France, vont finir par être arrêtés à l'automne 95. Mais un homme a échappé à la police, un nommé Ali Touchane, qui se fait aussi appeler Tarek. Un homme qui était sans doute le véritable chef de réseau et qui était en contact direct avec les commanditaires des attentats. Les vrais commanditaires.
Ouais, le GIA, vous voulez dire ?
Apparemment, oui.
Ah bon ?
Mais c'est ici qu'apparaissent les zones d'ombre. Tarek est loin d'être un inconnu pour la police française. En 1989, cet étudiant en architecture a déjà suscité la curiosité de la DST.
Pourquoi ? Quelle occasion ?
Mais il a créé à Paris une section du FIS. Mais on le laisse aller.
Bah, il faut rappeler que le FIS était alors un parti légal en Algérie.
C'est juste. La suite est particulièrement confuse. Après un séjour dans son pays, au moment des élections législatives, il revient en France où il ne cesse de voyager sous les identités les plus diverses.
Ça veut dire que c'était déjà un militant clandestin.
Oui, enfin écoutez la suite. En 1993, lorsque Pasqua déclenche la première rafle dans les milieux islamistes, Touchane échappe miraculeusement à l'arrestation. Une autre fois encore, la même année, alors qu'il s'est caché dans un foyer d'émigrés, il parvient à s'enfuir. Ensuite, on le signale dans plusieurs pays européens où il est soupçonné de se livrer à des trafics d'armes.
En faveur des maquis islamistes ?
Bien sûr. Mmh. Et à nouveau, il réussit à fuir à temps, lorsque la police belge s'attaque à un réseau du GIA en mars 95. Toutefois, la DST le suit à la trace. Mais l'homme est insaisissable. Et quand la police démantèle le réseau des poseurs de bombes de 1995, Touchane s'échappe à nouveau.
Mmh. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Et enfin, la première explication qui vient à l'esprit est que ce Touchane aurait pu être une taupe de nos services, enfin des services français, je vous dirais, et qu'à chaque fois, il aurait été alerté à temps.
Vous n'êtes pas le premier à vous poser la question, mais la DST a nié avec la dernière énergie.
Ben, je viens, mais enfin, si ce Touchane avait réellement été une taupe, La DST aurait pareillement nié.
Oui, bon, vous avez raison, mais pensez-vous que si ça avait été un type manipulé par nos services, ceci aurait laissé le GIA commettre des attentats aussi meurtriers sur notre sol? Non, ça me paraît difficile à avaler. Même si je ne mésestime pas le machiavélisme inhérent à l'action des services secrets.
Alors, bon, vous avez peut-être une autre explication pourquoi ce Touchent a pu s'en sortir à chaque fois.
Bah, la suite va vous permettre de vous faire une idée.
J'espère.
En 1996, Touchent se trouve en Grande-Bretagne, puis disparaît. On le retrouve à Alger, où pourtant il est en principe activement recherché. Il habite dans une cité où sont logés les CNS, l'équivalent de nos CRS. Bizarre, non?
Ça, je vous le concède. Ouais.
Et en 1997, il décède de mort violente dans un des endroits les plus surveillés d'Alger, près de l'hôtel El Jezair. Mais il faudra attendre plusieurs mois pour que les autorités algériennes identifient formellement son cadavre et communiquent ses empreintes digitales aux enquêteurs français.
Oui, je vois ce que vous voulez insinuer. Touchent était en réalité un agent des services algériens.
Et il a été abattu parce qu'il en savait trop.
Ouais. Ça n'explique pourtant pas comment il a pu échapper à chaque fois à la police. Hein.
Je vous ai dit que la DST était dans les meilleurs termes avec la DRS algérienne, ouais, l'ancienne sécurité militaire. Les deux services s'échangeaient des tuyaux et collaboraient dans la lutte contre les organisations islamistes. Les Algériens étaient donc bien placés pour prévenir Touchent des menaces qui pesaient sur leur taupe. En fait, grâce à ce type, la DRS manipulait les hommes du GIA en France. Et je ne suis pas le seul à le dire. Le propre frère de Touchent l'a reconnu.
Peut-être, mais enfin bon, si c'est vrai, quel était l'intérêt des Algériens?
En manipulant les poseurs de bombes, les services algériens voulaient nous impliquer dans la guerre qu'ils menaient eux-mêmes. Et en nous impliquant, ils justifiaient ainsi tous les coups tordus auxquels ils se livraient dans leur pays. Cette sale guerre qui leur permettait de rester au pouvoir. C'est pas plus compliqué que ça.
J'aime bien vous croire, mais enfin, vous avez des preuves?
Des preuves? Vous savez bien que dans ce genre d'affaires, il n'y en a jamais. Même s'il existe de fortes suspicions de double jeu pour plusieurs personnes membres du GIA, comme ce sinistre Zitouni ou ce fameux Touchent dont nous venons de parler. Mais je vais vous donner une indication supplémentaire. Les premiers militants islamistes algériens ont généralement été des Afghans, comme on les appelait.
Ouais, c'est-à-dire des Algériens qui sont allés combattre en Afghanistan contre les Soviétiques.
Oui, c'est ça, oui. À leur retour, ces types ont joui d'une formidable popularité. Et c'est en partie grâce à eux que les dirigeants du FIS ont pu recruter si facilement chez les jeunes. Seulement, ce que ces nouveaux convertis ne savaient pas, c'est que certains de ces Afghans étaient des agents doubles.
C'est-à-dire?
Dans les années 80, lorsque les Saoudiens, les Américains et l'organisation de Ben Laden ont massivement recruté des Moudjahidines pour lutter contre le régime afghan soutenu par les Soviétiques, l'Algérie était au mieux avec ces mêmes Soviétiques qui lui fournissaient des armes et des conseillers de tout poil. Et les Russes ont demandé aux Algériens d'infiltrer quelques-uns de leurs agents parmi ces combattants qui allaient faire la guerre au nom d'Allah.
Alors, par conséquent, ces types, à leur retour d'Afghanistan, sont, selon vous, demeurés des agents au service des Algériens?
Exactement. Et ils le sont restés quand ils ont été sollicités par les islamistes du FIS, puis du GIA. Ça signifie tout simplement que les services algériens ont toujours été informés des actions de la branche armée du FIS ou du GIA. Et qu'ils ont pu les manipuler comme ils l'entendaient.
Beaucoup de gens se sont posé des questions à propos du mystérieux Touchent. On a même prétendu qu'il avait été recruté par notre service de renseignement, la DGSE. D'autres ont affirmé que c'est lui qui a dénoncé le groupe de Khaled Kelkal. Alors, malgré les affirmations de M. X, le mystère demeure. Aussi, je suis retourné vers le livre de Ali Laidi, « Le djihad en Europe ». Et j'y ai lu ceci. Cette incroyable capacité qu'a Touchent d'échapper aux coups de filet laisse pantois. Forcément, on s'interroge et on élabore les pires scénarios. Touchent est-il une taupe des services algériens chargés d'embraser la France pour déclencher la répression des autorités contre les réseaux de soutien aux islamistes algériens? Touchent bénéficie-t-il du soutien de certains clans au pouvoir en Algérie? Les preuves, elles sont maigres, tout juste. Un numéro de téléphone relevé sur un carnet d'adresses lui appartenant, suivi des initiales DS, qui pourraient bien correspondre aux coordonnées des services de sécurité algériens. Il est probable qu'on n'en saura jamais plus. Je vous rappelle que ce livre a été publié au Seuil en 2002.